Actes 5, 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et le jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, mais ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce chapitre raconte une situation très similaire que celle en chapitre 4. Les apôtres arrêtés, menacés, relâchés. Et ce chapitre que nous avons étudié il y a quelques dimanches en parlant notamment de l'Église persécutée. Et ce serait certainement profitable encore aujourd'hui de reparler du comportement des chrétiens persécutés. Mais j'aimerais regarder les choses du point de vue des persécuteurs, leur comportement, leur motivation ici. Alors on va commencer avec une question facile, ensuite une question un peu plus difficile, plus délicate. La question facile, c'est celle-ci. Pourquoi les Sadducéens, pourquoi les chefs religieux ici ont-ils mal réagi par rapport aux apôtres? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi ils étaient furieux? Pourquoi ce désir de les arrêter? C'est une question facile, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Ils ne supportent pas le travail, le ministère, la présence des apôtres parce qu'ils sentent que leur position, leur influence, leur pouvoir est menacé. Et ça, ils n'aiment pas. Voici la question plus difficile, plus délicate. À leur place, est-ce qu'on aurait fait autrement? Est-ce qu'il nous arrive d'être jaloux pour les mêmes raisons qu'eux? Vous savez, ce désir d'être dans une position de force. Il y a toutes sortes de manières de détenir un pouvoir sur un autre, et c'est une motivation très, très forte chez l'être humain qui va dicter une grande partie de ses actions et de ses pensées, ce désir de détenir un pouvoir. Bien sûr, on peut être souverain sacrificateur et aimer jouir de la place du pouvoir que cela donne. On peut être empereur, mais on peut être le caïd du quartier, on peut être un collègue insupportable au bureau, on peut être tout simplement quelqu'un qui monopolise la parole, on peut être quelqu'un qui pense devoir vivre des conquêtes, des séductions sexuelles. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de manières de lutter contre ce sentiment d'impuissance qui nous frappe parfois, et on s'accroche à une position, on s'accroche à un pouvoir, on s'accroche à une influence, et tout concurrent est une menace, et on peut réagir avec, en tout cas, cette jalousie, cette méchanceté des Sadducéens. Parce que si vous y pensez vraiment, quand on considère notre place dans l'univers, l'être humain, finalement, il a très peu de pouvoir. Il est petit. Il a très peu de pouvoir. 95% de ce qui dirige notre vie, en fait, est hors de notre contrôle, non? C'est pas nous qui choisissons le siècle et l'endroit où nous allons naître. C'est pas nous qui choisissons notre famille, même nos parents, nos constitutions physiques, nos capacités, nos dons, même les circonstances qui dirigent. Tout ça, c'est hors de notre contrôle. Au bilan final, nous sommes quand même faibles. Dieu veut nous rappeler qu'on est dépendant sur lui, le Créateur, et nous, que des créatures. Mais on ne veut pas vraiment avouer cette dépendance, cette faiblesse. Et donc, d'où vient cette quête du pouvoir, cette quête des conquêtes qu'on peut voir un peu partout chez l'être humain? Il y a ce fameux poème Invictus, ce qui a inspiré le titre d'un film récent sur le rugby en Afrique du Sud, mais ce poème Invictus, ça vient du latin pour invincible. Et la dernière strophe du poème dit, qui est repris assez souvent, « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Et celui qui a écrit ce poème, c'est intéressant, il venait d'avoir la jambe amputée. Mais le cri du cœur, c'est comme nous, malgré cette jambe amputée, on veut être invincible, on veut quand même être le maître, le capitaine de mon âme. Invictus, ces Sadducéens, là ils sentent leur destin, leur pouvoir menacé, et ça ils n'aiment pas. C'est comme si leur jambe va être amputée par les miracles, par le travail que font les apôtres. Et donc ils réagissent fortement. Mais cette attitude, je suis le maître, je suis au pouvoir, eh bien, cette attitude conduit en général au mauvais comportement, à la catastrophe. Vous savez, le premier péché, on pourrait dire le péché originel, si vous voulez, c'était justement ça, de ne pas vouloir dépendre sur Dieu, de vouloir être aux commandes à sa place, de vouloir être au pouvoir. C'est Satan lui-même qui l'avait dit. Il dit, c'est une des phrases qu'on attribue à Satan dans les prophètes, il dit, « Je monterai, j'élèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. » Et parfois, c'est ce que veut dire tout le monde. Je monterai, j'élèverai ma position, mon pouvoir, mon influence, c'est moi. Et ce qui est fort dans ce chapitre, je crois que c'est ce que Luc veut nous montrer, c'est que voici les autorités qui cherchent à tout prix à être invincibles, à garder leur position, leur pouvoir, mais finalement ce sont eux qui sont impuissants, ridicules, comme on les voit. Et les apôtres qui ne cherchent pas ce pouvoir, ils ne le cherchent pas et ils ne font que du bien, et ils guérissent, ils annoncent la bonne nouvelle, ils ne cherchent pas le pouvoir, eh bien c'est eux qui sont imbattables, c'est eux, c'est l'évangile qui est invincible. Avec cette histoire de prison fermée, mais eux, ils sont en liberté tout de même, en annonçant la bonne nouvelle. Donc, les autorités qui cherchent le pouvoir, ils sont impuissants, ridicules. Les apôtres qui ne le cherchent pas, ils sont imbattables. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous offre aussi, Alors ce matin, j'aimerais parler un peu dans cette quête de pouvoir qu'on peut trouver autour de nous. J'aimerais parler plusieurs choses. D'abord, les faux messies qu'il offre. Ensuite, les véritables monstres que nous devenons si nous suivons ces faux messies. Ensuite, le vrai messie et enfin, le vrai pouvoir qu'il offre. Donc, les faux messies, les véritables monstres, le vrai messie et le vrai pouvoir. Ici, on rencontre quelques faux messies qui offrent en quelque sorte à nous, au monde, un sentiment de pouvoir, d'influence, de position. Vous savez, il y a différentes manières que le monde cherche à se donner ou s'accrocher à un pouvoir, une place prestigieuse. J'aimerais parler de plusieurs qui ressortent dans ce texte. Tout d'abord, quand on parle de pouvoir, on pense surtout à la politique. Et ici, quand même, il y a des enjeux politiques, il faut avouer, dans ce qui se passe ici. Il y a des faux messies qui se présentent. Tout d'abord, on peut parler de quelques messies, faux messies que Gamaliel évoque. C'est Todas et Judas le Galiléen. C'est un peu en passant, mais leur projet, c'était de renverser Rome, parce qu'ils voyaient que le grand problème, le grand danger, c'était Rome, l'Empire romain. Donc, ils se sont levés et beaucoup d'hommes se sont ralliés à cette cause en se disant, voilà, si seulement on pouvait renverser Rome, ça nous mettrait dans une position on est menacé, il nous faut combattre pour retrouver notre pouvoir, le pouvoir de notre peuple. Donc, ils misent tous leurs efforts sur cette cause-là, mais voilà, et Todas et Judas le Galiléen meurent, et puis la cause politique tombe à l'eau, comme tout au long de l'histoire ça a pu faire. Même certaines grandes causes politiques n'ont pas marché, beaucoup de déceptions. Donc ça, c'est un peu un côté, on va dire c'était l'extrême droite avec Todas et Judas. Mais il faut savoir que les Sadducéens, il y avait aussi un enjeu politique là aussi, parce que Luc, toujours l'historien, il nous apprend que les autorités à cette époque étaient majoritairement du parti des Sadducéens, en verset 17. Donc, les Sadducéens, c'était une branche, on va dire, religieuse, mais il faut reconnaître que c'est plutôt une affaire politique, une affaire de pouvoir, les Sadducéens, parce que les Sadducéens, ils étaient bien avec Rome. Ils s'entendaient assez bien, ils étaient prêts à faire quelques compromis, on va dire, par rapport au judaïsme strict, pour jouir des privilèges, du pouvoir que pouvait offrir Rome, une amitié avec Rome. Donc, pour eux, on va dire, leur messie, leur faux messie était Rome. Alors que Judas et Todas, c'était le contraire. C'était renverser Rome. Et quelque part, ça résume un peu beaucoup de ce qu'on peut voir dans la politique aujourd'hui. Beaucoup se tournent, s'attachent à une cause politique, des idéologies, en pensant que voilà, c'est ça qui va régler les problèmes de notre société, de notre pays. Selon la Bible, le problème du monde, c'est le péché. Et selon la Bible, la solution, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais si on n'accepte pas cette thèse-là, forcément, on en propose un autre. Et les problèmes arrivent lorsqu'on cible autre chose que le péché comme problème et autre chose que Jésus comme solution. Alors, c'est ça qui crispe le débat un peu partout. On va dire que le vrai problème, c'est la droite, et la solution, c'est la gauche. Alors là, ça crée des guerres, une intensité de discours, ou vice-versa, ou on va dire le vrai problème, c'est l'aristocratie, la solution, c'est liberté, égalité, fraternité. Ou bien on va dire que le vrai problème de notre société, c'est le chômage, la solution, ce sont les grèves et la retraite, et tout ça. Et on s'attache à ces causes, mais ils deviennent, on les élève au niveau de messie qui peuvent nous délivrer, nous donner un pouvoir, une influence, une sécurité, une stabilité dans la vie. Et on est tellement attaché qu'ils deviennent un peu comme on a vu dans la lecture de Sylvain ce matin, des idoles. Et puis, comme on va voir, ça va créer des problèmes. Donc, un faux messie, c'est un peu la cause politique, la politique. Une autre qu'on trouve ici, il me semble, c'est une recherche de pouvoir, une quête de pouvoir, et là on le cherche, c'est la religion. Vous savez, on a souvent reproché la religion d'être une affaire de pouvoir, simplement une affaire de pouvoir. Et beaucoup de grands penseurs ont émis cette idée, Marx et plus récemment le philosophe français Michel Foucault, dire que la religion, c'est juste tout simplement une tentative de pouvoir. Les gens veulent prendre le pouvoir sur d'autres, pouvoir les manipuler, pouvoir s'enrichir, pouvoir diriger, pouvoir recevoir attention et gloire et prestige et pouvoir. Et c'est ça la religion. La religion revient à ça. Et on pourrait dire que la Bible, c'est ça qui peut étonner, mais la Bible est largement d'accord avec ce reproche qu'on fait aux religions. Parce que si vous regardez bien, c'est la Bible elle-même qui offre la critique la plus cuisante de la religion et justement des motivations qu'elle a tendance d'inculquer dans les gens. L'histoire montre bien que les religions ont tendance d'abuser le pouvoir, de pousser les gens dans cette quête de pouvoir pour se croire supérieur aux autres, pour dominer d'autres, pour manipuler d'autres, pour s'enrichir sur le dos des autres. Et quand vous regardez dans le Nouveau Testament, notamment les échanges entre Jésus et ses apôtres et les Sadducéens et les pharisiens qui étaient l'établissement religieux de l'époque, c'est flagrant qu'il y avait une grande clash, une tension, à quel point Jésus et les apôtres vont dénoncer ce qui est devenu leur religion. Vous savez, la Bible nous avertit même que cette quête de pouvoir, cette tentation au pouvoir, ne se règle pas même à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Juste quelques chapitres plus tard, en chapitre 8, on va faire connaissance avec un certain Simon le magicien. Et ce Simon, il semble se convertir, en tout cas il se fait baptiser, il se fait disciple de Philippe. Il est tout content de sa nouvelle place dans l'Église, mais ses motivations sont dévoilées quand il voit le bien que font les apôtres, quand il voit leur influence. Il dit, moi aussi je veux ça. Et il propose de l'argent à l'apôtre Pierre en disant, je vous le lis, Actes 8:18, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, parfois même des positions de ministère ou des dons peuvent nous monter à la tête, nous donner un sentiment de pouvoir, et Pierre va dénoncer cette manière d'utiliser, de profiter de la foi, de la religion des chrétiens. Donc un faux messie, beaucoup le cherchent dans les causes politiques, d'autres le cherchent dans la religion, et j'aimerais parler d'un autre. Je ne sais pas si on peut appeler ça une faux messie, mais en tout cas, je le trouve ici, c'est tout simplement la mesquinerie. Je pense que c'est un peu comme on voit autour de nous, parfois au boulot, au travail, ou dans nos quartiers. C'est des gestes mesquins, juste pour essayer de se montrer plus fort que l'autre. Et je pense à ces Sadducéens, à la fin. Juste pour avoir le dernier mot, ils vont les fouetter. C'est-à-dire, ils écoutent la sagesse pragmatique de Gamaliel, ils vont les libérer, ils peuvent rien faire, de toute façon, la prison est vide, ils vont prêcher l'évangile de toute manière, ils ne peuvent rien faire, et le peuple est sur le point de les lapider s'ils font rien. Ils peuvent rien faire, mais ils ne les laissent pas partir sans un dernier geste méchant, gratuit, mesquin. Ils n'ont rien d'intelligent à dire. Ce qui est intéressant, ils n'évoquent jamais le miracle de leur sortie de prison. Ils ne cherchent pas à l'expliquer. On va vous battre parce que, voilà. Il y a plusieurs ironies même dans ce texte. Vous savez, les Sadducéens, c'est Luc qui le rappelle plus tard dans le livre des Actes, les Sadducéens ne croient pas aux anges. Les Sadducéens ne croient pas aux anges, alors que le verset dit, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et lui dit, allez, tenez-vous dans la tombe. Ils peuvent ne pas croire aux anges, mais c'est bien un ange qui les a libérés du prison. En verset 28, ils disent, voilà leur reproche surtout, ils disent, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est pas bien, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Bien, si vous lisez les évangiles, le récit de Matthieu, un moment, quand Pilate devait décider que faire avec cet homme, la foule a crié, quelqu'un de la foule a crié, et la foule, on sait, a été incitée par ces mêmes chefs, ces mêmes sadduciens. Qu'est-ce que la foule a crié? Que son sang retombe sur nous, sur nos mains, sur nous et nos enfants. Que son sang retombe sur nous. C'était l'argument qu'ils ont fait valoir entre Pilate, qui ne voulait pas trop se mêler de l'affaire, et donc nous. C'est nous qui sommes responsables que son sang retombe sur nous-mêmes. Et ici, mais vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et voilà, ils n'ont rien d'intelligent à dire. Et donc, mais juste pour se donner l'impression qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont plus forts et qu'ils sont en position de force, on va les battre. On va les battre avec ces fouets. Et je pense que peut-être vous êtes victime de, pas des fouets, mais un peu de ce mesquinerie. Ça arrive un peu partout dans notre société. On va vous faire patienter plus long que nécessaire dans une salle d'attente, juste pour vous mettre à votre place. Ou bien vous faites un bon travail au boulot, et au-delà de ce qui est demandé, mais au lieu d'être reconnaissant, on va être jaloux. On va vous accuser de vouloir être le chouchou du chef, et tout ça. Voilà, c'est encore cette quête de pouvoir, cette quête de quand quelqu'un est menacé de sa position, il va réagir parfois juste de manière méchante et mesquine. Mais ça dévoile quelque part son instabilité et sa quête de pouvoir, le faux messie, les faux messies qu'il cherche. Donc on a vu un peu les faux messies. On pense qu'ils nous donnent un pouvoir, une position de force, mais ce n'est pas ça. Mais après, maintenant, voyons un peu les véritables monstres que l'on devient si on vit cette quête de pouvoir ainsi, un peu comme les Sadduciens. La position de souverain sacrificateur, normalement, c'était une bonne chose. C'est Dieu qui avait institué ce rôle, cette position. Le souverain sacrificateur, il devait être une bénédiction pour le peuple, mais se trouvant à cette place, avec cette influence, ce pouvoir, eh bien, celui-là, en tout cas, est devenu un monstre qui a combattu contre Dieu, rempli de jalousie, de haine, de fureur. Et c'est ce qu'on voit quand on s'agrippe tant à notre position. Ça va nous transformer, peut-être lentement, mais ça transforme notre cœur, pas un cœur rempli d'amour et de patience pour les autres, mais un cœur jaloux, un cœur haineux, un cœur monstre. Donc, prenons l'exemple de la politique. L'activisme politique est peut-être une très bonne chose. S'impliquer dans la vie de la cité, on a besoin des politiciens. Mais quand il devient ce faux messie, ce faux salut, il va nous corrompre. Il ne peut que nous corrompre. Parce que quand on réfléchit à ma position, mon pouvoir, et qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un de l'opposition, d'ailleurs, comme on dit ici en France. Quand on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, ce n'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est quelqu'un de diabolique, quelqu'un de menaçant, quelqu'un qui dans ses discours, il blasphème, parce que, quelque part, il s'attaque à notre Messie, il s'attaque à notre salut, il s'attaque à tout ce que nous avons pour notre sécurité et pour notre sentiment d'être aux commandes dans le monde. Et donc finalement, toute cause politique poussée à l'extrême peut déraper, devenir monstre. J'aime bien donner cet exemple, parce que c'est en France, il y a Robespierre. Et un jour, il prononce un discours devant la Convention nationale, c'est 1794, et il parle au nom de la Comité du Salut Public. Vous connaissez votre histoire française mieux que moi, certainement. La Comité du Salut Public, et il va parler pour le salut public. Et voilà ce qu'il dit. Quel est le but où nous tendons? Eh bien, c'est la jouissance paisible de la liberté et de l'égalité. Donc, le but, c'est l'égalité, la liberté. Et puis, la suite du discours, c'est une défense du terreur, le règne de terreur. Et il dit, la terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Donc, pour qu'on arrive à la liberté et l'égalité, ce Messie, pour la République, il faut instaurer la terreur, et ce sera la justice pour arriver à la liberté et l'égalité. Robespierre lui-même a fini au guillotine, victime de la terreur, dans un système très injuste, très inégal. Voilà, vous voyez, quand on pousse ce discours, la liberté et l'égalité est une bonne chose, mais si elle devient notre faux Messie, et qu'il faut qu'on se permet tout pour l'avoir, eh bien, on devient monstre. Et c'est Sadducéen, ils avaient leur place, leur confort, une entente avec Rome, peut-être une certaine stabilité dans le pays, mais pour eux, perdre ça, voir le travail des apôtres, le message des apôtres, c'était pas juste ne pas être d'accord, c'était dramatique, d'où leur haine, leur jalousie. Vous connaissez peut-être ces histoires, le Seigneur des Anneaux, c'était des histoires et puis un film, et au cœur de l'histoire, le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau de pouvoir, on appelle ça l'anneau du pouvoir, et toute l'histoire se joue là, et celui qui l'a, beaucoup de pouvoir, mais cet anneau ne peut que corrompre ceux qui l'ont. C'est-à-dire même ceux qui sont à la base gentils et du côté des bons, quand ils ont cet anneau du pouvoir, ils deviennent esclaves, ils deviennent corrompus. Parce que l'effet de cet anneau, c'est même aussi bonne que soient les intentions, c'est d'amener la personne à être prêt à tout faire pour accéder au pouvoir, pour... Même ceux qui veulent bien faire, même ceux qui veulent protéger leur peuple ou leur terre, deviennent prêts à tout jalousie, tout abandonner tout scrupule. Et toute l'histoire, c'est que la seule solution, c'est de le détruire. Et c'est pareil pour nous, souvent, quand on s'agrippe à un pouvoir, on peut nous rendre... méchant et mauvais. Je pense à ce diotrèphe dans le troisième épître de Jean. Diotrèphe, il était responsable d'église, il était pasteur en quelque sorte, mais Jean a reproché et il dit, mais ce diotrèphe, il aime être le premier. C'est nous tous en quelque sorte, on aime être le premier, mais ce diotrèphe, ce pasteur, il aimait être le premier, c'est-à-dire il avait pris son ministère, sa place dans l'Église, même sa maturité, on va dire, dans la foi, il avait pris justement pour lutter contre un sentiment d'impuissance, et ça a devenu pour lui un peu cet anneau de pouvoir, et ça l'a corrompu. Jean le dénonce et dit, il aime être le premier, mais il ne reçoit pas, c'est pourquoi, si je vais, je rappelle les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Et voilà comme même un ministère peut devenir, peut corrompre le cœur, quand on le vit comme ce privilège du pouvoir. Donc les faux messies, les véritables monstres, mais regardons le vrai messie maintenant. Le vrai messie, c'est celui que prêchent les apôtres, eux ils connaissent le vrai Messie. Mais pensez à notre Messie et la manière dont lui, il a montré son pouvoir. J'aime bien Pierre, chaque fois qu'il est arrêté, il profite pour remettre une couche, reprêcher l'Évangile. Et donc, en verset 29, ils disent, mais... Qu'est-ce que vous faites? Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne en ce nom-là. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Donc, élevé, droite, prince, sauveur, ce sont tous des mots qui évoquent justement le pouvoir, le sommet de la gloire. La conquête, la victoire. Mais pensez à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir, cette élévation, cette place à la droite du trône? Comment Jésus a-t-il montré sa force et son pouvoir? Eh bien, en le renonçant. Il a été pendu au bois, il a été tué. C'est-à-dire qu'il a fait tout le contraire des Sadduciens qui, eux, s'agrippaient à un faux pouvoir, un pouvoir usurpé pour devenir méchant. Jésus, qui avait le pouvoir légitime, il l'a renoncé. On se souvient, Satan, voulant être invincible, Satan, il avait dit « Je monterai, j'élèverai mon trône et je serai semblable au Très-Haut. » Ça, c'est les paroles de Satan. « Je monterai, j'élèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. » Qu'est-ce que Jésus a dit, lui? « Je descendrai, je m'abaisserai et moi, je serai semblable aux hommes. » Philippiens 2:7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a dit tout le contraire, il a fait tout le contraire que les Sadduciens, Satan et bien d'autres. On pourrait dire que le vrai Messie, quand on pense à cette histoire, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Cette faiblesse du Messie, eh bien, la Bible va dire finalement, c'était la force, c'était la puissance de Dieu à l'œuvre d'aller vers cette croix, d'aller, au lieu de rechercher le pouvoir et la gloire, de s'abaisser. Et c'est ça qui est beau. Jésus, lui, il était allé dans la prison la plus verrouillée, il était allé dans la prison la plus fermée, la plus soigneusement gardée, cette prison de la mort, la prison de la mort qui nous renferme tous, que nous méritons tous, le prison de la jugement de Dieu. Jésus est allé dans cette prison-là, la plus verrouillée, la plus soigneusement gardée, et le matin, trois matins plus tard, il est allé annoncer les paroles de cette vie, il est allé annoncer sa résurrection, sa victoire. Et il a pu dire, après sa mort, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre. C'est-à-dire, il a accédé à tout pouvoir, non pas en le recherchant, mais en mourant pour nous, dans une humilité, dans un amour, dans un sacrifice. Ça, c'est invincible. Hein? C'est ça la puissance de l'évangile, invincible. Et donc maintenant, parlons du vrai pouvoir. On a vu un peu le vrai Messie, comment le vrai Messie a atteint sa place, sa position, son influence. C'était en le renonçant. Et maintenant, nous sommes appelés quelque sorte à le suivre. Et il nous offre une force, un pouvoir dans la vie, pas comme celui des Sadduciens, mais comme le sien. Ce qui est trop fort ici, trop flagrant, c'est que les apôtres, oui, ils vivent quasiment la même chose que Jésus. Jésus a été arrêté, Jésus a été faussement accusé, Jésus a été lié, emprisonné, Jésus a été menacé de mort, on voulait le faire mourir. Lui, il est vraiment mort. Les apôtres, pour l'instant, on les libère, mais ça va passer eux aussi. Ils suivent le même chemin de Jésus, mais ce qui dégage de leur vie, c'est invincible, ils sont invictus. Et quand on accepte le vrai Messie, quand il entre dans notre cœur et qu'il nous change, eh bien, il nous offre cette force intérieure, ce pouvoir de vivre. Regardez les apôtres. Ils sont battus, mais le verdict du chapitre de l'histoire, c'est qu'ils sont imbattables. Ils sont battus, mais ils sont imbattables. Vous voyez bien qui détient le vrai pouvoir ici. Il y a les autorités au pouvoir, mais eux, ils sont jaloux, furieux, perplexes et mesquins. Et les apôtres, qui sont, eux, ils sont calmes, confiants et joyeux. C'est quoi le vrai pouvoir? Toujours être furieux, jaloux, perplexe, troublé, et passer sa vie comme ça, inquiet de toute concurrence, de toute menace de notre place, ou être calme, confiant et joyeux, quoi qu'il nous arrive, même si le collègue n'est pas sympa, même si notre parti n'a pas gagné les élections, même si être calme, confiant et joyeux, c'est ça la force. C'est ça la force. Regardez ce qu'ils font ici. Dieu les délivre du danger. Il les sort du prison. Dieu les délivre du danger pour les renvoyer dans une situation encore plus dangereuse. Ça, c'est invincible. Ils sont délivrés du prison. Je pense que nous, on aurait dit, bah, là, on a échappé bien, c'est super. Maintenant, prenons quelques jours de congé, calmons le jeu. Au moins, on va faire grâce matinée. Mais dès le matin, dit le verset, ils entrèrent dès le matin dans le temple. Dans le temple, c'est mon frère au groupe de jeunes qui disait, le temple, c'était le siège social de l'opposition. Et c'est là qu'ils vont pour prêcher l'évangile. Ça, c'est la force, ça, c'est fort, ça, c'est invincible. La vraie force, le vrai pouvoir, c'est quoi? C'est d'aimer ses ennemis. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir se réjouir dans la souffrance, comme ils font à la fin. Ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est fort, ça. La vraie force, c'est de ne pas avoir peur des hommes et de vivre sereinement, joyeusement. Pourquoi ils ont cette force? D'où vient cette force? Parce qu'ils savent, ils n'ont rien à perdre. Les Sadduciens, leur panique, c'est de perdre leur place, leur influence, parce que tout leur salut, tout leur Messie se trouve là-dedans. Mais les apôtres, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de place à perdre. Leur place assise à côté de Jésus-Christ dans le ciel est déjà garantie. Il n'y a pas de meilleure place, donc ils n'ont pas de place à perdre. Ils n'ont pas de réputation à perdre, comme craignaient les Sadduciens ou d'autres. Ils n'ont pas de réputation à perdre. Leur réputation est déjà garantie pour l'éternité. Dieu les aime, Dieu les trouve chouettes, super, beaux, aimés, amis. Leur réputation est assurée pour l'éternité. Vous, c'est ça être invincible. Et pour Luc, je pense ce récit, il doit bien aimer ce récit parce que pour lui, c'est toute une image de l'histoire de l'Évangile à travers les siècles, toute une image de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, c'est presque comique ici, mais l'église, la prison est soigneusement fermée, les gardes sont postés devant et l'Évangile est en train d'être prêché à l'extérieur par les apôtres. Et pour Luc, c'est l'histoire de l'évangile, c'est l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'on a voulu arrêter cette force invincible-là de l'Évangile, on le retrouve quand même en train de progresser, d'avancer en dehors. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes n'ont pas eu la visite de l'ange pour les sortir de prison et sont restés en prison même. Et parfois, nous, on se trouve dans des situations bloquées. Mais pour Luc, ça n'empêche pas que la bonne nouvelle, l'évangile, la vérité de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ restera toujours invincible et quand nous, on attache à ce pouvoir-là, cette force-là, c'est bon, on peut vivre dans la joie, dans la paix et nous aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le verset termine avec un dernier commentaire sur leur force, c'est qu'ils ont été menacés, ils ont été maintenant fouettés, ils ont été défendus d'annoncer le nom de Jésus selon verset 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils sont invincibles, l'évangile est invincible, prions.